En tant qu'autrice, metteuse en scène.
Ce qui m'anime, notamment à travers le spectacle hashtag Elvire27, c'est d'inventer, de penser des partitions pour les actrices et des récits aussi portés par des actrices et des personnages féminins qui se déploient en marge des stéréotypes de genre, de voir... de vraiment travailler sur ce que c'est qu'une performance féministe, c'est-à-dire un endroit, une zone de liberté, d'occupation de l'espace du plateau, d'engagement dans la parole, dans le verbe, dans des émotions, des états qui seraient en marge des stéréotypes de genre et qui déploieraient au maximum la liberté de l'actrice au plateau ou des actrices au plateau et de les mettre en récit dans des histoires plus contemporaines et dans des histoires féministes.
Oui, alors au-delà de ça, en lisant le projet de Créa, c'est aussi ce qui était très clair, c'était l'interrogation en fait de la place des personnages féminins dans les textes de théâtre et dans la culture en général et la culture française notamment.
Là, ce spectacle, il interroge vraiment un personnage de la pièce Don Juan de Molière, qui est un personnage, assez connu pour les personnes qui connaissent cette pièce, qui est un personnage féminin, mais qui est quand même un personnage très secondaire dans la pièce de Molière. Et c'est d'interroger qu'est-ce que ça fait d'incarner un personnage complètement rétrograde qui est aimé et admiré pour son sens de l'abnégation, du sacrifice et pour ses qualités entre guillemets, excusez-moi de l'expression, de bonne victime aussi. Et qu'est-ce qu'on répète comme assignation quand on monte une pièce du répertoire et quand on modifie pas du tout les textes tels qu'ils sont écrits, qu'est-ce qu'on continue de véhiculer aussi à travers les personnages féminins du théâtre classique, du répertoire.
Oui, je rebondis sur justement vos propos. Ça interroge aussi de fait peut-être la façon dont le metteur en scène va aussi diriger le comédien ou ce qu'il va aussi mettre dans la direction de ce personnage dans sa mise en scène. Est-ce que au-delà du texte, c'est pas aussi aujourd'hui une question de comment un metteur en scène va concevoir
ce personnage? Je pense que c'est les deux, mais on part avec un texte comme ça, par exemple Don Juan, on part en étant très empêché. Je veux dire, Elvire est construit vraiment en périphérie et pour faire avancer c'est un personnage qui est périphérique et qui existe aussi pour faire avancer la narration du héros principal. Donc, je pense que quelle que soit la volonté de mise en scène, si le texte n'est pas du tout modifié, c'est quand même très difficile d'en faire autre chose que ce que c'est déjà tel que c'est écrit. Ensuite, les questions de mise en scène, elles sont très intéressantes sur l'occupation de l'espace. Est-ce qu'elle est centrale? Est-ce qu'elle est en tout cas moi c'est un sujet de recherche que je commence aussi, c'est-à-dire comment est-ce que les actrices occupent les plateaux? Est-ce qu'elles les occupent de la même façon qu'elles occupent les espaces publics et les cours de récréation, c'est-à-dire sur les côtés de façon discrète ou bien de façon centrale? Quelles sont les dynamiques entre les acteurs et les actrices, les différences d'occupation en hauteur, en termes de volume, quels sont les costumes qu'on met aux actrices, est-ce que c'est des costumes à l'intérieur desquels elles vont pouvoir fouler le plateau, ou bien est-ce que c'est des costumes qui contraignent aussi leur mobilité physique, de la même façon que les habits peuvent contraindre le corps des femmes dans l'espace public. Voilà, c'est des questions-là qui implique aussi la responsabilité des metteurs et des metteuses en scène.
Du coup, Alors, au moment de, donc le 18 septembre, vous allez nous donner à voir et à entendre une lecture, en fait, d'un premier jet de votre texte, hashtag Elvire 27. Et oui. Quand vous allez revenir en résidence de création la dernière semaine du mois d'avril, le spectacle va être un peu plus avancé au niveau construction de l'espace et de l'espace scénique. Est-ce que ce sera un seul en scène avec pour seule voix votre interprétation? Est-ce qu'il y aura plusieurs interprètes? Comment ça va se passer?
On est deux interprètes sur scène. Il y a une voix, on va dire, qui en même temps convoque plusieurs personnages, entités. Le spectacle, il est construit un peu comme un voyage initiatique, on va dire, où c'est la parole qui fait ce voyage, mais qui permet de faire exister plusieurs entités avec lesquelles l'actrice qui est au plateau va dialoguer. Mais ces entités sont toujours interprétées par cette même actrice. Et sur scène, il y a aussi Elisabeth Saint-Jeanne qui est scénographe et plasticienne. Et donc, au plateau, il y a quand même ces deux femmes. Et parallèlement au texte principal, on va dire, il y a aussi ce qui se déploie entre elles en termes d'intimité, on va dire, en tout cas pas d'intimité au sens amoureux, mais d'intimité au sens l'intimité aussi du plateau, des loges, qu'est-ce qu'une actrice et la personne qui la sublime, qui choisit dans quel apparat elle va, enfin qui la transforme, qui a aussi le pouvoir de la transformer, qu'est-ce qui se passe entre elles. J'imagine que à ce moment-là, on commencera à faire des essais de scénographie, il y a tout un travail autour du costume aussi et du rapport entre le costume et le corps de l'actrice qu'on va explorer, notamment à travers les robes, la question de la robe. Enfin, on aimerait bien traverser aussi un peu l'histoire du costume pendant cette heure et demie de spectacle, quoi.
Je reviens aussi les origines de ce projet là dont vous nous parliez. Oui. C'est aussi une expérience vécue pour vous, hein, Elvire. Sur le personnage d'Elvire, quand même, je pense que ce qui a été un peu peut-être pour vous confirmez, qui a été un peu le déclencheur, c'était votre interprétation, votre rôle de Elvire dans Don Juan, et des retours que aussi votre interprétation a provoqué. C'est intéressant. Oui, vous pouvez nous raconter, du coup, cette.
Oui, j'ai eu la chance de jouer Elvire dans une mise en scène contemporaine pour. Une centaine de représentations, c'est un spectacle qui a beaucoup tourné sur les plus grands plateaux de France, qui a tourné aussi à l'étranger, on a joué en Chine, enfin c'était vraiment une aventure, quoi. Et donc j'ai porté, on va dire, ce personnage, j'ai vécu avec ce personnage pendant plusieurs années, deux ou trois ans. À la sortie du spectacle, donc on a, tout en respectant le texte de Molière, on a rendu ce personnage-là. Je n'ai pas effacé l'individu et la comédienne que je suis pour la faire rentrer dans l'idée du personnage ou l'idée qu'on peut se faire du personnage d'Elvire. Et donc c'était vraiment la rencontre entre ce personnage et en même temps moi, le propre rapport que j'ai. À mon corps, à mon énergie, quand je parle, je peux avoir tendance à postionner, j'ai les mains qui partent un peu, qui sont assez mobiles aussi, enfin, j'ai pas peur d'être, quelque part, de pas être dans ma plasticité la plus belle quand je suis dans le plateau, je ne privilégie jamais le fait d'être belle ou d'être radieuse au plateau. Je privilégie toujours quand même l'état de jeu et la mobilité que ça me demande. Et en fait, si ça me mène à un endroit qui est peut-être potentiellement proche du monstrueux, c'est quand même pas quelque chose qui m'inquiète. Et Elvire était un elle dire qu'il est un personnage de jeune première, qu'on attend de le voir d'une certaine façon, très digne et assez lisse aussi dans sa colère, dans une colère très propre, très esthétique, etc. Ben là, elle était un peu, peut-être, elle était vivante, mais du coup un peu, peut-être un peu crade, quoi, entre guillemets, par rapport à l'idée qu'on se fait de cette princesse, ou de cette, enfin, il y a un peu ce côté, voilà, princesse en robe blanche, quoi. Et donc j'étais en robe blanche, etc., mais j'étais dans une énergie assez, assez haute, voilà. Et donc quand le spectacle est sorti, il y a eu différentes critiques dans la presse qui disaient que j'étais, enfin que l'actrice, donc Nadège Catalino, était trop ingrate pour un si grand rôle et que ça desservait le combat des femmes. Ça, c'était dans la presse nationale. Mmh. Et ça m'a beaucoup questionnée sur qu'est-ce qu'on attendait de voir. Enfin, ça a vraiment été le moteur de cette recherche-là que j'ai entamée dans ce spectacle et que sûrement je poursuivrai après, sur qu'est-ce qu'on attend, dans quoi est-ce qu'on attend de voir une actrice et qu'est-ce qu'on attend de ces personnages classiques qu'on a vus et revus, idéalisés. Quand on déroge, à cet idéal qu'on s'attend de voir, y a aussi un retour de bâton qui peut être assez violent, quoi. Et ça m'a interrogé cette violence des représentations.
Justement, avec hashtag Elvire27, Elvire revient pour prendre une revanche, prendre sa liberté, prendre, sais pas, un match retour. Comment ça marche? Dans quel état d'esprit cette Elvire 27 revient?
Je pense que c'est une forme assez hybride, donc qui est entre la conférence, enfin c'est aussi un travail de recherche, quoi, que j'ai mené, donc ça s'entame un peu comme une conférence avec un certain nombre de références, de réflexions plutôt théoriques, et petit à petit c'est une réflexion aussi sur le personnage d'Elvire, et en réfléchissant à ce personnage d'Elvire, c'est aussi comment est-ce qu'on vit, c'est aussi une interrogation sur nos places dans nos vies amoureuses, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'être une Elvire ou ne pas être une Elvire? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de ne pas être elle, absolument, dans nos vies? Donc c'est ça part du théâtre, mais après ça s'applique aussi, c'est aussi une réflexion sur nos intimités le match retour. Enfin, là c'est je pense que c'est vraiment un geste de dévoration du plateau, de pas, enfin c'est aussi comment ce personnage tout petit qui a genre ces deux monologues très furtifs par rapport à l'ensemble des mots et l'ensemble des paroles prononcées dans la pièce de Molière, comment ce personnage déjà prend sa revanche en devenant le centre de l'histoire et donc est dans un débit de paroles qui est quand même assez chargé. ça va très vite, il y a beaucoup de mots et comment à travers ça bien sûr, ouais, il y a une revanche, elle se fait pas forcément, mais quoique pour l'instant la fin n'est pas encore écrite et j'ai quand même la sensation que le dernier acte, on va dire, qui est vraiment tout ce que Elvire n'a jamais dit à Donjon. ça termine quand même par, à mon avis, une logorée fleuve qui sera probablement mais pour l'instant c'est pas écrit.
Et alors votre relation avec le public, parce que vous l'abordez, c'est une réflexion, c'est une recherche, vous avez utilisé le mot conférence un petit peu, la place du public, où est-ce que vous la situez, où est-ce que vous l'attendez, cette place de public dans cette réflexion?
Je pense que il y avait quand même l'idée de construire une forme assez pédagogique, donc d'entraîner les personnes dans à la fois dans une forme ludique et en même temps dans une véritable une vraie réflexion, quoi, sur justement la représentation des personnages féminins sur scène, mais du coup au cinéma et dans les fictions qu'on peut regarder, lire, écouter. Après, il y a tout un parallèle entre le personnage d'Elvire que je fais et aussi avec le mouvement MeToo. Donc, il y a aussi une initiation à ces questions-là, aux questions, enfin, au mouvement MeToo, à ce que ça a soulevé, aux réflexions, enfin, et comment le mythe de Don Juan est aussi un des premiers mythes qui permet et alimente la confusion entre la séduction et les violences sexuelles, quoi. Et donc, comment un mythe ou une histoire peut aussi participer activement à une culture du viol très intériorisée. Donc ça, c'est un peu, on va dire, le sujet de ma conférence, entre guillemets, mais à partir de, et en fait, là-dedans, il y a le public est vraiment emmené dans la réflexion, et après, il a accès aussi à toutes les sources qui ont nourri, enfin, toutes les lectures qui ont nourri ce qui est avancé. Donc l'idée, c'est quand même qu'il y ait une idée un peu scientifique, enfin en tout cas sérieuse au niveau de la recherche, qu'il y ait des références, que ce soit sourcé, etc. Et en même temps, il y a un débit très rapide. Il y a une performance de l'actrice au plateau qui donne lieu aussi à une transformation, une mutation. Et les gens, ils sont emportés dans cette tornade, quoi. Il y a un peu un côté hypnotique, quoi, par la parole. Et en même temps, par moments, ils sont aussi face à un concert parce qu'il y a des moments musicaux qui arrivent dans le spectacle. Donc la place du public, elle est réflexive. En même temps, elle est les spectateurs et les spectatrices sont face à un objet ludique, ils sont aussi face à un exploit, mais en tout cas celui de la performance, un exploit sportif, quoi. Et en même temps, à peu près, c'est ça, ils sont devant un concert, devant une performance, devant une conférence.
Voilà, qui les invite, enfin voilà, Elvire les convoque pour peut-être éclairer notre époque contemporaine à travers des textes qui sont issus du classique.
Après, peut-être que j'ai pas insisté là-dessus, mais il y a beaucoup d'humour dans la façon dont c'est écrit et dans la façon dont le public est convoqué, voilà.
Voilà. Sur un premier échange qu'on a eu avec Hélène Francissi, qui interviendra également le 19 septembre à l'occasion des Journées du Matrimoine, elle nous disait que finalement, cette arme de l'humour était ultra puissante et nécessaire sur des sujets aussi délicats par la puissance du sujet, en fait, tout simplement.
Bah oui, c'est... Et puis l'humour est aussi un endroit de pouvoir, et je pense que quand on parle de cas de tentatives d'égalité ou de répartition du pouvoir, l'humour participe à ça, je pense.
Très bien, bah merci beaucoup à vous, Nadège Catelino, d'avoir parlé de ce hashtag Elvire27 que nous retrouverons en cours d'écriture ce samedi 19 septembre. On aura l'occasion de le voir sur le plateau également durant cette saison, au mois d'avril, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je dis des bêtises? Là, je parle sous le contrôle de mes collègues.
Non, c'est le 30 avril.
Eh ben voilà, pour une fois que je dis pas de bêtises, c'était plutôt pas mal. Merci beaucoup, Nadège, d'être passée par nos micros.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. On repart en musique avec... ça y est, j'ai perdu le fil une fois de plus. Pardon, c'était...
Lilywood.
Eh ben oui, Lilywood, Fight Your Love.
Of losing anyone, so I sometimes fight your love. been.
Ben voilà, on commence à se faire surprendre une fois de plus par les fins, la fin des morceaux. Eh bien voilà, nous en avons les secrets, bien entendu. Lily Wood.
Oui, c'était aussi un de mes choix. C'est aussi un concert que j'attends impatiemment, qui va passer le 8 octobre au Cube également. Et c'est des artistes qu'on a déjà accueillis en résidence de Créa et qu'on adore.
Et ça nous amène au moment de l'agenda non exhaustif, des choses qui ont retenu notre attention.
Eh bien, pour compléter le programme des journées du matrimoine au Tangram et au Cube, c'est aussi un concert de Woudoumé qui vous est proposé le vendredi 18 septembre à 19h30 au Cube. Et également les visites guidées du Cube le samedi 19 septembre. Et je crois qu'il y a aussi des visites guidées du théâtre.
Non,
il n'y a que le Cube.
Et le dimanche.
Ouais. Le dimanche, on aura aussi les visites du théâtre à l'italienne.
Le gendre, oui. Deux visites guidées, une à 11h, une à 14h30 et une visite libre mais bien plus balisée dans ces mêmes créneaux si les gens viennent en dehors des créneaux de visite. C'est bien entendu sur réservation puisque les groupes ne sont pas extensibles.
C'est important quand même de préciser. On a parlé bien sûr de l'effet Mathilda pour le 19 septembre à 16h à l'auditorium et de hashtag Elvire27 que nous venons d'avoir Nadège Catellino au micro le 19, samedi 19 à 18h30 au Théâtre Le Gendre. Bien sûr, ces deux propositions théâtrales, on le mentionne, sont gratuites.
Tout à fait, sur inscription.
Sur inscription. JC, une actualité ?
Alors j'ai plusieurs actualités, c'est la saison des festivals, ce mois de septembre. J'enchaîne les trois que j'ai sous la main.
Tu nous fais une Jeannie Longo et tu sprint.
Voilà, le 4 et 5, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, le Fav Rock Festival, un festival de musique rock alternatif principalement, que l'on retrouve sur le site de la Noé à la Bonneville sur Iton, c'est ce vendredi et ce samedi.
Et la radio Principe Actif y est dès ce soir.
Tout à fait, nous y serons ce soir également. Alors un autre endroit où nous y serons, c'est le week-end d'après au Rock in the Barn, c'est le vendredi 11 et le samedi 12 septembre. Ce sera la dernière édition, ça a été annoncé, de ce festival mythique, le Rock in the Barn, qui se déroule à Vernon, pareil, à ne manquer sous aucun prétexte. Et puis un autre événement à ne rater sous aucun prétexte au mois de septembre, c'est le 26 et le 27 septembre, c'est le festival Les Arts à la Mare qui se déroule à Claville avec un air de fête de village. C'est un festival qui est proposé sur le week-end. Voilà sur les trois propositions festivalières que j'avais dans ma besace.
Eh bien, beaucoup de festivals encore. Il y a les festivals avant-été, les festivals après-été. Ça ne finit jamais.
Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle.
On aura l'occasion, bien entendu, de vous parler des événements du mois d'octobre, parce qu'il y en a tout autant.
Aussi pour compléter sur la partie musicale du mois de septembre, hein, dans la programmation du Cube, qui vient de sortir hein, en programme, nous avons le 24 septembre une soirée rap-pop avec Zamdam sur le spectacle Rama. Ne pas manquer le jeudi 24 à partir de 20h au Cube. On vient bien sûr d'écouter hein, Lilywood. Bah, Lilywood, ce sera au mois d'octobre, mais ce sera tout début octobre, qui sera présenté. Et le vendredi 25 septembre à 20h, c'est une soirée avec Justin Niel et Pyjama. Et non pas Pyjama, mais Pyjama. Et là, on est dans une pop et un autre intitulé Spoken Word. Vous me direz, Spoken Word, je ne sais pas. De quoi cela cause ? Mais la pop, ça me parle, mais le spoken word, non !
On n'est pas loin du slam.
Ah.
Je pense que par moment, Nadège Catlino peut être aussi dans le spoken word.
Eh bien, ceci nous amène à la fin de cette émission. Bien entendu, c'était un agenda non exhaustif. Hein. Beaucoup d'autres événements vous attendent aux quatre coins de vos territoires, loin de chez vous, pas loin de chez vous. En tout cas, il y en a partout. Et nous terminons cette émission avec l'extrait de film. Et c'est encore toi, Nathalie, qui t'en est chargée.
Eh bien, je veux...
C'est Madame Cinéma.
C'est ma... Oui, enfin, le film est ouvert, on va dire. La proposition est ouverte. Voilà, c'était pour faire écho sur la question femme, comédienne, et puis l'actualité aussi cinématographique hein, de la rentrée. On vous propose, on va écouter la bande-annonce du film Garance, qui sortira le 23 septembre 2026. Garance, c'est le dernier film de Jeanne Herry, une réalisatrice française qui a sorti deux longs métrages auparavant, notamment ce long métrage sur la parole des familles, des portraits des familles de victimes alors je cherche mes mots pour être sûre. Elle a fait tout un portrait sur la résilience judiciaire, voilà. Tout ce film de portraits, aussi bien de condamnés que de victimes et de familles de victimes sur la résilience judiciaire, qui était un film marquant, quand même. Et là, on la retrouve dans plutôt un drame, avec l'actrice Adèle Echarpe-Copoulos. C'est Garant, c'est l'histoire d'une comédienne. Une comédienne qui a quand même un certain talent, sans être une vedette. Mais elle gère de son mieux cette vie d'intermittente du spectacle, de femme, de vaillante, joyeuse, de soldate de la scène, très engagée. Mais pour trouver son carburant et pour combler ses failles et ses souffrances, et c'est un réconfort qu'elle cherche dans sa condition, elle rencontre l'alcool. Et c'est aussi tout ce parcours de femme, comédienne, avec ses addictions, mais aussi un parcours d'un être humain sur cette addiction et cette rencontre de vie qui va faire basculer et la mettre dans un parcours de guérison.
Garance, qui est à l'affiche actuellement.
23 septembre,
23
c'est pas encore.
Septembre,
voilà,
pardon.
C'est une actualité. On le retrouvera sur le mois de septembre à partir du mercredi 23 septembre.
Très bien. Et nous, on se retrouve le vendredi 2 octobre à 12h30 pour le Scène de vie, vie de scène du mois d'octobre. On se quitte avec la bande-annonce.
Alors, t'es comédienne ?
Un peu galérienne, mais...
Tu sais être comédienne, non ?
Ouais, c'est vrai.
Plus un geste, mais joli.
Tu ne mérites pas d'être Zorro. Renonce ou vous allez le regretter, toi et le tien.
On sait qu'on peut pas t'aider à résoudre ton problème avec l'alcool.
Oh, désolé, énorme galère dans le RER et de la famille que je prends un taxi.
Tu sais ce qui se passe si tu rates une représentation ?
Y a pas de cas où je rate une représentation.
T'es Gwyn ?
Pas beaucoup.
Tu m'envoies un message pour me dire que t'es bien arrivé.
Elle dit quoi ?
Gueule de bois des enfers.
Elle dit gueule de bois des enfers.
Tu vis seule ?
Ouais.
Et t'as pas besoin de voir du monde ?
J'ai pas besoin de beaucoup de monde, non. Mais ça me manque un petit peu de...
De quoi ?
D'aimer. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé.
J'ai pensé à toi.
Moi aussi.
Beaucoup.
Presque à peu près tout le temps. Quoi. T'es pas bien ici avec moi ?
Si. J'ai tellement de chance d'être avec toi. C'est juste que ça fait beaucoup d'angoisse. D'être loin de tout,
sans alcool, je sais pas comment faire.